Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Hugues Sérapion. Cette émission est diffusée en direct samedi 29 septembre 2012, de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30 et dimanche 30 septembre dans la nuit de minuit à 1h30. Elle est réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Amis auditeurs, bonjour. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges faisaient la guerre au dragon. Et le dragon fit la guerre, ainsi que ses anges, et ils n'eurent pas le dessus. Et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Et il fut jeté, le dragon, le grand dragon, le serpent, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable, et le Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix forte dans le ciel. Elle disait : C'est à présent le salut, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu, jour et nuit. Et eux l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Voilà pourquoi, exultez, cieux, et vous qui y séjournez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu chez vous avec une grande fureur, sachant qu'il a que peu de temps. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, et le préambule de cette émission est une lecture du livre de l'Apocalypse selon saint Jean. Aussi, chers auditeurs, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir le livre de l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, et d'essayer d'en comprendre le sens profond, quel enseignement il recèle pour nous, pour notre temps, mais aussi pour les temps futurs. Alors, pour nous accompagner dans notre discussion, j'ai le plaisir de recevoir le Père Philippe Play. Père Philippe Play, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Vous êtes prêtre passionniste et vous êtes également le recteur du sanctuaire marial de Notre-Dame-du-Cros, c'est dans l'Aude. Et vous avez une activité de prédication, mais aussi d'écriture, puisque vous avez fait paraître un livre, une petite somme, peut-on dire, qui s'intitule « Les grandes énigmes de l'Apocalypse, la clé des symboles » aux éditions Salvator, où vous essayez de revenir sur l'ensemble du sens de ce livre qui a fasciné depuis 2000 ans d'histoire, croyants et profanes. J'ai également le plaisir de recevoir Martin Stéphins.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à ce micro. Vous êtes philosophe et enseignant en classe préparatoire. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Vivre ensemble, la fin du monde », également aux éditions Salvator, où finalement, vous essayez de montrer que cette fin du monde, c'est déjà la fin de nous tous qui arrivera un jour, et comment en tout cas s'y préparer, et puis tout simplement vivre tous les jours avec cette certitude qui ne doit pas nous faire peur.
Tout à fait.
Alors, peut-être quelques mots, Père Philippe Play, sur cette congrégation peut-être mal connue, les passionnistes.
En effet, elle est peu connue en France, nous sommes peu nombreux, nous sommes une quinzaine. Elle a été fondée en Italie au XVIIIe siècle par saint Paul de la Croix. Et saint Paul de la Croix, en fait, a fondé un institut qui ressemble beaucoup au Carme, Vous voyez, entre, c'est-à-dire, ils vivent dans des lieux isolés, les passionnistes au 18e, et leur ministère, c'est les missions paroissiales. Nous sommes des prédicateurs dès l'origine. Alors, avec le Concile Vatican II, l'évolution du monde contemporain, les missions paroissiales ont disparu et chacun d'entre nous, eh bien, adapte son ministère de prédication en fonction de ses qualités. Mais saint Paul de la Croix avait reçu cette intuition, c'est qu'il faut prier d'abord au pied de la croix. Et puis ensuite, à partir de là, eh bien, se charger de l'amour qui est si miséricordieux qu'il a donné sa vie pour nous et l'annoncer au monde. Annoncer que c'est la voie la plus directe pour rejoindre Dieu, pour entrer en relation avec Dieu, la méditation de la passion. Or, ça fait très peur en général, mais quand on la pratique, eh bien, on se trouve inséré d'une certaine façon, mystiquement parlant, avec le petit groupe de Marie, de Saint-Jean, de Marie-Madeleine, qui sont au pied de la croix, et on découvre, eh bien, que la spiritualité de la passion, c'est un lieu de grande douceur et pas seulement d'épreuves, comme si on prenait sur soi la croix du monde.
Alors, il y a également un autre mot qui fait très peur, c'est apocalypse, hein, puisque, en tout cas pour nos contemporains, il a plutôt la connotation de grande catastrophe, hein, plutôt que son sens finalement étymologique.
Exactement, son sens étymologique, c'est une révélation. C'est la manifestation de Dieu et de sa volonté, alors que les catastrophes, que l'interprétation catastrophique est liée aux images que l'Apocalypse déploie. Il déploie de nombreux fléaux, mais ces fléaux nécessitent d'être interprétés. Et ils sont les images du thème principal de l'Apocalypse. Et qu'est-ce qu'il nous révèle, justement, étymologiquement? Eh bien, il nous révèle une espérance, il nous révèle les secrets du combat spirituel, et le passage que vous avez évoqué, justement, eh bien, l'inaugure bien, l'introduit bien. Il y a un enjeu. Dans la vie ordinaire, on a l'impression que tout est plat et que cette vie n'a pas d'enjeu particulier, sinon s'en tirer dans la vie, ne pas faire trop de mal aux autres, évidemment, avoir un équilibre. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a en fait une grande bataille qui nous dépasse complètement, et c'est tout le thème de l'Apocalypse. L'Apocalypse situe l'homme sur un vaste champ de bataille, mais un champ de bataille qui est d'ordre spirituel et où les soldats en fait sont des anges, des esprits, les bons et les mauvais. Et les hommes sont plutôt l'objet du combat plutôt que les héros, les soldats en tant que tels. On doit plutôt suivre, plutôt, et on n'a pas forcément l'initiative dans ce combat-là. Et on le voit bien parce que c'est grâce à la révélation, grâce à des textes comme celui de l'Apocalypse, eh bien qu'on comprend petit à petit où nous sommes en tant qu'hommes, au niveau de notre condition humaine, existentiellement, et qui nous sommes vraiment.
Martin Stephens, vous partagez l'avis du père Philippe Play sur finalement cet enjeu de la vie, sur ce qu'est la vie?
Oui, dans le texte que vous avez lu en début d'émission, on parle du diable en termes d'accusateur. Et je dirais, pour utiliser un autre sens du mot accusé, que la perspective de la fin du monde accuse notre vie, mais au sens où une lumière va accuser les détours ou accuser les contours, c'est-à-dire les révéler, les mettre au jour. Et il y a quelque chose dans l'appréhension de notre fin qui fait que toute chose essentielle se met à briller. Au fond, il se pourrait bien que la perspective de l'absentement du monde, de sa disparition, nous permette de jeter une lumière dont le grain est plus à même, voilà, de nous révéler l'essentiel. Voilà.
Alors là, vous parlez de fin du monde. Alors l'Apocalypse veut dire révélation, mais il parle aussi de la fin du monde.
Il évoque évidemment la fin du monde.
Est-ce que c'est une vision métaphorique ou doit-on la comprendre de façon très réelle, la fin de notre monde sensible ?
L'un et l'autre. L'un et l'autre. Pourquoi ? Parce que d'une manière métaphorique, parce que l'essentiel du texte, en réalité, ne parle pas de la fin du monde, mais du chemin. De l'histoire qui y conduit. Mais le récit s'achève effectivement par un récit de la fin du monde.
Et je vais vous poser à tous les deux cette question. Est-ce que vous croyez à la fin du monde, la fin de notre monde sensible, la fin de la Terre et de ses habitants qui s'arrêteraient ?
J'y crois évidemment. D'ailleurs, elle est inscrite. C'est ce que j'ai dit dans mon dernier ouvrage, sur Babel et le culte du bonheur, là j'en profite pour en parler, c'est justement le thème de ce livre, c'est que, vous voyez, les astrophysiciens nous disent clairement que le monde aura une fin, que le soleil, c'est une étoile, qu'elle a son rythme de vie et que la Terre dépend de cette étoile, et cette étoile va s'éteindre un jour. Alors c'est des chiffres astronomiques par définition, mais déjà dans la matière, la fin du monde est marquée. Bon, c'est bien qu'individuellement, on va tous mourir, mais collectivement aussi, il y a cette fin du monde. Et alors, bien sûr que j'y crois, et j'y crois en plus en tant qu'homme de foi, mais il ne faut pas hâter les choses, il ne faut pas prendre les devants de la grâce non plus.
Martin Stéphens.
Oui, de la même façon, j'y crois. Je pense que quand même, et pour rappeler le premier numéro des Temps modernes, pour rappeler un article de Sartre qui disait que avec la bombe atomique, l'homme était en possession de son suicide, que l'humanité, pour la première fois, pouvait, pouvait mettre fin à ses jours, tant et si bien que il est vrai qu'il s'est quand même passé quelque chose de nouveau. Quelque chose qui fait que tout à coup, alors que les guerres creusaient des petits trous en entonnoir dans nos courbes démographiques, eh bien là, il se peut que cette courbe soit tout à coup rayée, de telle sorte que nous avons l'impression que depuis la grande maîtrise technologique de l'humanité, eh bien nous avons l'impression que nous traçons notre vie sur le néant, en fait, que tout acte que nous posons désormais est une victoire de l'être sur le néant. Voilà, donc je pense que ça, c'est quand même un événement qui est neuf dans l'histoire de notre humanité.
Alors, permettez-moi de prendre un petit peu le contre-pied de vos deux affirmations, parce que, et en m'appuyant sur ce que l'on sait de la science, on sait deux choses. D'abord, c'est qu'on peut tout à fait imaginer un univers infini, non pas dans sa durée, mais dans sa répétition. Non seulement des univers parallèles, la théorie des cordes l'évoque, mais aussi des univers qui se succèdent de Big Bang en Big Bang. Donc déjà, l'univers a 15 milliards d'années, donc ce qui est un chiffre totalement incommensurable pour nous, pauvres êtres humains, qui avons du mal à dépasser les 100 ans. Et deuxièmement, en plus, de toute façon, cette éternité peut recommencer en une infinie d'éternité, chacun étant elle-même l'éternité. Et deuxièmement, si je perds Philippe Lé, quand vous parlez du Soleil, et quand vous dites qu'il va s'éteindre dans 10 milliards d'années, je vous rappelle qu'il y a des hommes pensants depuis un peu moins de 30 000 ans, si on a encore 10 milliards pour trouver n'importe quel autre moyen de survivre sur le Soleil, je suis assez confiant. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis assez d'accord avec la position moderne qui consiste à dire que l'humanité, sauf dans un suicide collectif, mais il n'y a jamais 4 milliards ou 6 milliards ou 10 milliards de gens qui se suicident en même temps, et toute bombe atomique, elle laissera peut-être des gens avec 3 bras et 3 jambes, mais jamais ça éteindra l'espèce humaine. Donc je suis assez d'accord avec la position moderne qui dit que d'un point de vue scientifique, l'homme est immortel. Et que donc, l'Apocalypse est forcément, sur les fins dernières, un acte de foi, puisqu'elle dit, non, il n'y a pas de discussion, la science peut être d'accord ou pas d'accord, hein. On peut avoir sa propre perception, comme moi je peux avoir ma propre perception scientifique, mais si on est d'accord avec ce message du Christ, ce message de l'Église, il y a une fin du monde, il y a une fin du monde sensible. Et c'est là où je voulais en venir, parce que je crois qu'aujourd'hui, comprendre que comme moi, par exemple, on peut être parfaitement, si vous m'interrogez d'un point de vue scientifique, je vous dis que l'homme est immortel et je pense le prouver et l'avoir prouvé, mais en même temps, on peut accepter qu'il y ait une vérité d'un autre ordre et qu'il mette un point d'arrêt parce que le créateur de toute chose l'aura décidé. Mais pour nos contemporains, ce que je veux dire, puisque vous parliez de votre vocation de prêtre-prêcheur, je ne vois pas. Enfin, je vois une très grande difficulté de nos contemporains à accepter cette notion de fin du monde. Ça leur paraît totalement farfelu.
Pourtant, déjà, au seul niveau individuel...
Ah, ça, c'est une certaine... Ça, ils ne veulent pas le voir, mais ils le savent. Ça, on est d'accord.
Oui.
Et au point de vue collectif, parce que...
Non, mais je veux dire, il y a une relation. Ce qui se passe au niveau individuel, ça se reproduit, c'est reproduit dans la création au niveau collectif d'une autre façon. Donc, au niveau psychologique, on a tous l'impression qu'on est immortel. Et pourtant, nous savons bien que notre vie a eu une fin. À mon sens, le point de vue collectif que vous évoquiez là, par rapport à la science, là, à partir quand même d'hypothèses, ce n'est pas des certitudes, les théories d'astrophysique.
Bien sûr, mais je veux dire qu'on peut légitimement
on pourrait le penser.
S'y rattacher.
Mais d'ailleurs, les anciens, c'est les platoniciens pensaient la même chose
sur
l'éternité du monde, l'éternité de la matière.
Et effectivement, et les philosophies asiatiques.
Oui,
de fait du monde.
Et pas les Hébreux, puisqu'il y a le psaume 102, si je me souviens bien, qui dit que les cieux et la terre s'usent, alors que Dieu lui-même
permane. Lui,
voilà, oui, voilà, c'est ça. Permanent. Et donc il y a quelque chose dans le monde ancien de tout à fait surprenant, c'est un petit peuple qui ne croit pas en l'éternité ou au retour cyclique de ce monde-ci.
Tout ça pour dire que dans un dîner en ville, parler de la fin du monde vous emmène d'abord très loin et nécessite beaucoup de bouteilles et très difficile à appréhender pour nos contemporains dans cette démarche collective.
Bien sûr.
Et je trouve là aussi qu'il y a une nouveauté parce que pendant longtemps quand même, cette notion d'un Dieu tout-puissant qui pouvait arrêter le monde était parfaitement... faisait partie du substrat intellectuel et psychologique de la majorité du monde. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc là aussi, il y a une rupture et qui fait que je crois que cette émission est intéressante parce qu'on aborde quelque chose qui est difficile à dire pour nos contemporains.
Oui, en même temps, nécessaire. Parce que, d'une part, individuellement, on ne connaîtra pas tous la fin du monde. Donc,
c'est pas très
inquiétant.
Personnellement, c'est pas grave, mais collectivement, c'est.
Mais il existe le même mystère.
C'est un abîme qui s'ouvre devant nous que d'avoir d'avoir ce qui a marqué dans votre livre, Père Philippe Play, les grandes énigmes de l'Apocalypse.
Mais c'est le propos justement de l'écriture d'ouvrir des abîmes, de nous donner le sentiment du vertige pour nous provoquer à la réflexion. Et Dieu nous rappelle à la fois que c'est non seulement individuellement que nous devrons lui rendre cette vie que nous avons reçue de lui, mais qu'un jour l'histoire aura une fin, parce que la finalité ultime de la création, c'est là vraiment le point de vue de la Bible, hein. La finalité de la création, c'est Dieu lui-même, c'est son contentement, il nous a tous créés, il a créé cet immense jardin, le cosmos. Vous voyez, l'homme sur une petite planète bleue, et ce jardin aux dimensions quasiment infinies, ou en tout cas indéfinies, eh bien, ça nous montre vraiment la grandeur de Dieu, sa gratuité, c'est quelque chose de grandiose. Et en même temps, cette fragilité, ce n'est pas divin, contrairement à ce que les Grecs dans l'Antiquité pouvaient penser. Est-ce que nous pensons à nouveau aujourd'hui un petit peu, selon les thèses que vous évoquiez ?
Même si la perspective d'une fuite hors de notre Terre pour... échapper à une fin du monde, c'est quand même toujours en même temps une fuite. C'est-à-dire que ça ne fait fond que sur la certitude que nous sommes finis et que le fini va finir. Et donc, on pourra tenter d'inventer quelque chose, mais au fond, c'est bien parce que l'on court, parce que ce progrès-là est une façon de vouloir s'échapper à cette chose qu'on sait nécessaire, irrémédiable.
On rêve tous d'immortalité, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, mais c'est vrai qu'il y a ce rêve permanent de l'humanité de ne pas s'éteindre.
Ah, bien sûr. Et puis le rêve qui nous habite tous, et sur lequel joue le dragon, on le verra tout à l'heure, c'est justement ce désir d'immortalité qui habite en nous tous. Mais on voudrait vivre en dehors de Dieu, c'est-à-dire être divin soi-même, avoir la vie en nous-mêmes, justement.
Et c'est là aussi où je trouve que notre monde contemporain est assez paradoxal. Parce que, en préparant l'émission, je me suis dit, mais finalement... autrefois, on avait un Dieu qui avait créé la Terre et peut-être le Soleil, mais finalement, on avait un Dieu qui avait créé un univers fini. Donc, on pouvait autrefois concevoir un Dieu comme également quelqu'un de pas tout à fait infini. Et d'ailleurs, les Romains, en faisant les demi-dieux, ont bien senti que les dieux de l'époque n'étaient pas des vrais dieux, puisqu'ils étaient à mi-chemin, finalement. Or, aujourd'hui, justement, et ça, c'est un apport, il me semble, pour la pour les hommes de foi de la science, c'est que on commence à prendre à simplement à entrevoir la profondeur et l'immensité, la complexité de la création. Et ça devrait nous donner un autre regard, il me semble, sur Dieu. Et il m'a vraiment, ce qui m'a beaucoup frappé dans tous les textes saints, mais notamment dans la Bible et dans l'Évangile, c'est le nombre de fois, surtout dans la Bible, moins dans l'Évangile, où l'on rappelle que Dieu est grand. Bah oui, Dieu est grand puisque c'est Dieu. Or, je crois qu'il y a là une forme d'attention qui est mise pour tous les hommes de tous les temps en disant « Attention, on n'a jamais fini de contempler l'infini de Dieu. » Et c'est peut-être aussi une réponse sur cette notion d'infini après la mort. Pourquoi le temps est infini après la mort ? Eh bien, c'est parce que c'est la seule chose qui soit à la mesure de Dieu. Et je pense qu'on... Peut-être pourrait-on utiliser les nouvelles connaissances que l'on a du monde sensible qui nous entoure pour redonner pour se réinterroger. Je parle aux philosophes là. Est-ce que vraiment on sait ce que ça veut dire quand on écrit Dieu d'un point de vue philosophique ?
Oui, c'est ça. Et dans l'affirmation Dieu est grand, en fait, il ne faut pas entendre simplement Dieu est grand, parce qu'on pourrait dire mais il y a des choses, d'autres choses grandes. Ni non plus qu'il est nécessairement le plus grand sur un ordre d'échelle qui serait le nôtre et avec lequel on pourrait rivaliser, c'est que Dieu est plus grand, c'est-à-dire toujours plus grand que ce que je croyais qu'il était. Et l'on voit bien, en effet, la science, c'est l'existence des spécialistes. Il faut un spécialiste pour chaque domaine du réel, tant, en effet, ce domaine est inépuisable et pourtant, ça n'est que le monde.
Père Philippe Lé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la structure de ce livre fascinant qu'est l'Apocalypse ?
Alors, il se construit d'une manière linéaire. Le commencement, ça commence par les lettres aux sept églises, et c'est un thermomètre. On prend la température au moment où commence la narration, et bien de la situation de la foi de l'Église dans son ensemble. Puis vient le récit de l'ouverture des sept sceaux. Et alors là, ça concerne cette fois-ci la température spirituelle du monde, des non-croyants. C'est ce qui est fascinant dans le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il ne prend pas en compte seulement les croyants, comme l'ensemble des textes bibliques en général. C'est un texte qui regarde vraiment les enjeux spirituels, tant pour ceux qui en ont conscience, les croyants, que pour ceux qui n'en ont pas encore conscience, qui ne l'ont pas encore découvert, les incroyants. Donc l'ouverture des sept sceaux, là, c'est prendre la température spirituelle de ce monde. Donc on a à la fois sous l'angle religieux, avec les sept églises, sous l'angle profane. Puis, on peut dire que c'est le tribunal qui se met en place, le tribunal divin se met en place au moment de l'ouverture du livre aux sept sceaux. D'ailleurs, l'image est très grandiose. Saint Jean nous montre sur le trône, alors le Dieu qu'on ne peut pas voir d'ailleurs, il est indicible. Il est représenté sous forme de couleurs multiples pour nous exprimer le mystère, la beauté, la richesse. On voit comme un homme qui est assis sur le trône, un trône blanc et immense. Et puis il y a toute la cour céleste qui l'entoure, et puis il y a Jean, il est en prière, et le ciel s'ouvre, et il est introduit auprès de Dieu dans cette grande vision par un ange. C'est les anges qui sont les médiateurs de la prière, il ne faut pas l'oublier, et le livre de l'Apocalypse nous le montre. Et alors l'ange introduit Jean en esprit au pied du trône, et il se lamente lui-même à la question qui est lancée, mais qui va ouvrir ce livre ? Vous voyez, le grand désir du croyant, c'est que Dieu soit révélé, c'est que Dieu soit montré. Et c'est la première chose que le livre de l'Apocalypse nous livre. Alors une fois que c'est sous forme de tribunal, en quelque sorte, donc que la cause est introduite, que le tribunal s'est mis en place, on a l'agneau qui ouvre le livre, et on va avoir en deux temps ensuite... deux autres septénaires. Vous voyez, le texte de l'Apocalypse est structuré sur des septénaires, un ensemble de sept éléments indissociables. C'est déjà dans l'Évangile, il y avait un septénaire qui composait la vie publique, les récits de la vie publique. Mais là, c'est encore plus complexe parce qu'il y en a, il y en a quatre. Donc les sept églises, les sept sceaux, ça c'est les premiers. Là, on introduit la narration. Ensuite, le cœur de la narration... il est structuré, il est entouré, on va dire, par deux autres septénaires qui suivent, les trompettes d'abord, et puis les coupes ensuite. Les symboles sont très parallèles, mais il y a une nuance parce que le récit a avancé entre-temps. Alors au milieu de ces deux derniers septénaires, qui représentent alors à la fois l'énonciation de la sentence pour les trompettes et son exécution ça, pour les coupes, le dernier septénaire, on a un large développement que Saint Jean nous fait, que j'ai qualifié du cycle des grandes figures. Et parce que, évidemment, si on en restait au simple septénaire, le lecteur ne pourrait pas comprendre. Et Saint Jean, alors là, fait un grand développement pour nous introduire dans le mystère du combat spirituel. Et ces récits, donc c'est la femme qui est couronnée de soleil, c'est le dragon, et on a lu au début de l'émission là, le récit de sa chute. Ensuite, ce dragon, il va susciter deux autres bêtes, la bête de la mer d'une part, la bête de la terre d'autre part. On va voir ensuite l'agneau qui monte sur le mont Sion, et ensuite c'est la figure de Babylone. Alors, tous ces récits forment un large développement qui nous fait comprendre en fait quelle est la teneur du récit. Hein. Et lorsque ça s'achève par Armageddon, la fameuse bataille d'Armageddon, qui est la première grande bataille, c'est suivi enfin par le cycle, par les 1000 ans, le millénium, un 1000 ans de paix où l'Église rayonne dans le monde sans imposer à la manière de Babylone sa volonté sur le monde. C'est un rayonnement libre. Et puis, ça s'achève par le récit proprement dit de la fin du monde, à la fin du millénium, par une seconde et dernière bataille spirituelle. Et alors là, Saint Jean nous introduit dans la contemplation du jardin céleste avec une vision imagée de la Trinité. Là, on est dans l'éternité. Alors, c'est un récit très complexe, mais en même temps, quand on en a compris les grandes étapes, eh bien, bon, on peut se lancer dans sa lecture et dans sa méditation. Donc là, je répète, une présentation initiale, la situation des croyants et la situation spirituelle du monde, de ceux qui ne croient pas au départ. Puis, le tribunal s'installe, c'est-à-dire que Dieu va montrer aux hommes que c'est lui le Créateur, le Père et aussi le Juge. Et alors, énonciation de la sentence, d'une part, avec tous les développements qui suivent pour nous faire comprendre comment ça se passe, cette énonciation de la sentence, les avertissements, et puis le dernier septénaire, celui des coupes, qui conclut la chose, quoi, qui boucle la boucle.
Merci Père Philippe Play. Martin Stéphane, ce que vous a inspiré l'Apocalypse, notamment lorsque vous avez écrit votre livre « Vivre ensemble, la fin du monde ».
Alors, mon livre, moi, ne part pas du texte de l'Apocalypse, mais de la résurgence, ou plutôt de cette étonnante découverte que le thème de la fin du monde est revenu au devant, en cinéma, en philosophie ou en littérature, hein, et avec des grandes œuvres, hein, Take Shelter au cinéma, qui est un grand film. La route de Cormac McCarthy en littérature ou l'œuvre de René Girard en philosophie, pour n'en citer que trois. Et du coup, voilà, devant cet étonnement, on peut se demander qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Et dans la suite de mon premier essai, qui est le Petit Traité de la Joie, un texte sur le consentement, eh bien, j'essaye de penser. Le fait que face à quelque chose comme ça qui nous terrifie d'abord, on peut soit bloquer, soit s'y résigner, soit consentir ou suraccepter, c'est-à-dire finalement intégrer ça dans un récit plus grand, dans un récit plus large. Et ce que m'inspire le texte de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est quelque chose qui, à mon avis, est propre au christianisme, qui est que, par rapport à la philosophie, par exemple, Dieu ne fait pas un traité avec des grands principes universels mais abstraits. Dieu ne fait pas un traité car il veut rencontrer librement sa créature, et donc ça donne non pas un traité...
Il y a néanmoins un tribunal.
Oui, il y a un tribunal, mais finalement, on sera jugé, peut-être, sur cette question pour vous qui suis-je, c'est-à-dire... Il y a un tribunal, on pourrait dire c'est horrible, mais en réalité c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que la récapitulation par Dieu de sa création n'est pas une abolition de celle-ci. Passer devant un tribunal, c'est bien répondre de soi. C'est-à-dire que par là, Dieu honore chaque singularité. La façon personnelle qui a été celle de chacun de répondre à la question, voilà, pour vous qui suis-je. Et donc l'idée de jugement dernier, on pourrait dire c'est terrifiant, mais quand on compare à d'autres mythologies où la créature
abolie ni droit ni devoir.
Voilà, ni droit ni devoir, exactement. Donc finalement, l'idée d'un dieu qui siège, c'est quelque chose qui, oui, honore notre vie terrestre.
Mais là, d'ailleurs, on va un peu vite en allant tout de suite au jugement dernier et au tribunal. C'est-à-dire qu'il y a le principe du tribunal qui est affirmé au début du texte de l'Apocalypse, mais il y a tout le long, en fait, avant d'arriver à cette conclusion, il y a tout le livre à parcourir.
Bien sûr, et nous allons, rassurez-vous, le parcourir pour nos auditeurs.
Mais tout de suite, il faut affirmer justement que celui qui comparaît devant ce tribunal n'est pas quelqu'un qui est vierge de toute connaissance. Il a eu le temps d'être averti, d'être instruit tout au long, justement, de la narration.
Il a écouté l'émission de Radio Courtoisie où j'ai le plaisir de recevoir le père Philippe Plé pour son livre « Les grandes énigmes de l'Apocalypse » et Martin Stéphens « Vivre ensemble la fin du monde » tous les deux aux éditions Salvator, comme son nom l'indique.
Par exemple.
Il y a, d'ailleurs peut-être pour rassurer un peu nos auditeurs, j'avais noté avec intérêt qu'il y a un élément de dogme dans le catéchisme catholique qui affirme que nul ne se damne sans le savoir.
Ah oui, exactement.
Et je crois que c'est quand même quelque chose qui devrait un peu rassurer en disant que ce n'est pas... ce n'est pas nul n'est censé ignorer la loi. C'est une fois que vous connaîtrez la loi... ici-bas ou plus tard, et en fonction de cette loi, vous choisirez ou non de transgresser. Quand même beaucoup plus porteur d'espérance, mais je ne veux pas parler d'espérance avant la fin de l'émission, puisque ça...
Non, on peut commencer.
ça romperait la ligne du récit.
Non.
Mais c'est intéressant parce que ce que j'essaie de montrer moi dans mon essai, c'est que pour les croyants et les non-croyants, la perspective de la fin du monde nous renvoie à l'image que nous nous faisons de Dieu. Est-ce un Dieu pervers qui nous a donné toutes ces merveilles quand même de notre existence pour les reprendre absurdement à un météorite qui se balade et puis qui... Est-ce un Dieu qui, au contraire, tiendra les promesses dont notre vie fut grosse, etc., etc. C'est-à-dire que, finalement, l'intérêt de l'homme de la rue pour la fin du monde est vraiment porteur d'un sens philosophique.
Martin Stephens, c'est merveille, vous y allez un petit peu vite. Permettez-moi de citer une auditrice. Je suis sidéré des trois monothéismes qui prônent l'amour et la paix et qui partout ne sont que source de conflits et de malheurs. Et bon, pourrait-on ajouter, quand bien même ce ne seraient pas les religions qui seraient source de conflits et de malheurs, en tout cas le conflit et le malheur, il existe. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même, il n'y a pas toujours eu, mais particulièrement aussi en notre temps, une désespérance de ce qu'est la création. D'ailleurs, j'ai toujours été frappé, cette position des religions, et particulièrement de la religion chrétienne, qui vise absolument, surtout à faire croire que la création, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un avis. Je comprends les gens qui disent mais non, c'est pas extraordinaire. Je souffre et si moi je souffre pas, d'autres souffrent. N'aurait-il pas mieux valu ne jamais être créé pour ne jamais expérimenter le bien et le mal? C'est à l'inverse de ce qu'ont fait finalement Adam et Ève dans le jardin. Eux, c'est l'inverse. Ils voulaient plus encore en termes de liberté. Mais moi, je vous pose une autre question. Est-ce qu'il aurait mieux valu que rien de tout cela n'existât ?
Bah, la création recèle un inaccomplissement et un inaccomplissement que Dieu veut. C'est justement le sens de la condamnation d'Adam et Ève. C'est-à-dire le travail difficile pour l'homme, donc l'accès, la recherche de la vérité qui est difficile au sens spirituel du terme, donc c'est par rapport à l'esprit. Pour la femme, l'enfantement dans les douleurs, c'est une métaphore du cœur humain, c'est-à-dire que la difficulté d'apprendre à aimer, de laisser son cœur s'ouvrir. Il y a dans la création, saint Paul le dit, un inaccomplissement et l'Esprit-Saint lui-même gémit en même temps.
Il crie dans les douleurs de l'enfantement.
Exactement. elle-même participe à notre crise spirituelle. Et c'est-à-dire l'accomplissement que nous visons, il est en Dieu et il est normal. Mais en même temps, cette création inaccomplie recèle des merveilles. Donc c'est, le christianisme a toujours contemplé, a tenu l'un et l'autre aspect. L'un et
oui,
l'autre.
Avec un bel équilibre.
Un bel équilibre, oui.
Oui, et puis finalement, quand on voit ce qui est cause de douleur ou de souffrance, eh bien, c'est peut-être un bien qui fut d'abord donné. Car finalement, pour vivre un deuil difficile, eh bien, il a fallu d'abord aimer telle ou telle personne. Pour perdre, il faut d'abord avoir reçu. Et imaginons un monde, en effet, où il n'y aurait ni douleur physique, ni souffrance morale. Eh bien, le meilleur moyen d'obtenir ce monde, c'est de nous priver de la sensibilité physique et de nous priver de notre faculté d'aimer.
Et de notre liberté, tout simplement.
Et de notre liberté. Et finalement, donc soit une sorte de vie en rose, comme ça, la dictature de l'antalgique, on pourrait dire, soit un monde de pierres et de fougères. Et en effet, peut-être qu'il faut oser l'idée que ce monde du risque et du combat, ce monde qui nous offre d'avoir mal bien souvent, c'est un monde qui vaut davantage la peine, qui est infiniment plus intéressant qu'un monde plat. Bon. D'autant que la religion nous offre une chose peut-être, surtout le monothéisme, c'est qu'on a le droit avec Job de crier contre Dieu et de dire de lui qu'elle est...
Mais sans blasphémer.
Sans blasphémer, il se rit du malheur des innocents. Il se rit du malheur des innocents. Le cri de Job, c'est une façon d'entrer en relation avec son créateur. Et c'est peut-être mieux que rien.
Père Philippe Plé, si on revient à ce livre de l'Apocalypse qui a fasciné depuis 2000 ans, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être les différentes écoles d'interprétation? Parce que vous avez présenté le livre, mais quelles ont été les grandes façons d'interpréter ce livre fascinant déjà en effet d'un point de vue littéraire?
Alors depuis le commencement, il y a les deux tendances, ceux qui veulent retenir les leçons théologiques du texte et qui le rapportent donc à la vie théologale, à la foi, l'espérance et la charité. Mais aussi, immédiatement, dès l'Antiquité, d'essayer de voir dans l'histoire, au long de l'histoire, s'il y a des événements qui collaient, qui étaient relatifs à cela. Alors il y a donc une question, est-ce qu'il faut regarder le texte dans un sens historique ou bien théologique, c'est-à-dire atemporel, d'une part. Et puis d'autre part, en ce qui concerne la narration, il y a deux écoles qui ont vraiment marqué l'interprétation et qui lui donnent un sens et une connotation très, très importante. Soit vous considérez que c'est un récit rectiligne, linéaire, qui a un commencement, qui évolue, une progression et qui aboutit à une conclusion, à une fin. C'est le point de vue que je défends, c'est le point de vue le plus littéral d'ailleurs par rapport au texte. Mais il est tellement difficile et il y a des images qui reviennent, etc. Donc, dès le commencement de l'Église, au IVe siècle, on a Ticonius, a émis une hypothèse qui a duré longtemps, parce qu'elle a été reprise par saint Augustin, donc il lui a donné vraiment de l'ampleur dans l'Église. C'est une théorie qui dit qu'en fait, c'est cyclique. Le Saint Jean, eh bien, en fait, reprend continuellement la même image. Donc, ce serait juste, voyez, le jugement dernier, en fait, en quelque sorte, le prélude au jugement dernier et le jugement dernier. Et puis, tout au long du livre, eh bien, par boucle, c'est la théorie de la récapitulation, on l'appelle comme ça techniquement, eh bien, par boucle, ça reprendrait comme ça. Indéfiniment, enfin pas indéfiniment, mais enfin un certain nombre de fois le même thème. Alors, cette théorie, elle a été vraiment balayée au Moyen-Âge par Joachim de Flore. Elle avait été jusqu'au Moyen-Âge, à cause de, quand même de l'importance d'Augustin et de son autorité, beaucoup d'auteurs l'ont suivi. Mais Joachim de Flore, lui, alors là, il a fait une interprétation très historique. Et il est très important dans l'histoire de l'interprétation. Lui, il a redonné au texte, je dirais, sa connotation plus littérale d'un sens linéaire. Il y a un commencement du récit, un développement, et ça, une conclusion, une fin. Mais il l'a fait dans le cadre d'une interprétation historique. Il a dit, il y a trois périodes dans l'histoire de l'humanité, à l'image de la Trinité. Il y a la période du Père, qui est celle de l'Ancien Testament. Ça va d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste. C'est normal, c'est l'Ancien Testament, on va dire. Ensuite, il y a la période du Nouveau Testament, la période du Fils, qui commence avec le Christ, et qui s'achève, et bien justement, c'est là tout son problème, c'est d'avoir donné une date, de se dire, ça s'achève un petit peu après moi, en fait. Il avait donné une date de 1260, je crois. Pour l'inauguration de quoi ? De la troisième ère, l'ère de l'esprit. Et alors, lui, il essaye de reconnaître, à travers la création, et l'astrologie fait un parallèle entre les grandes figures bibliques et les sept planètes du système solaire, etc., et les événements, et il essaye de montrer comment est-ce que l'histoire évolue, comment Dieu intervient dans l'histoire de manière très concrète, et à sa suite. Donc on peut dire que jusqu'à notre époque, jusqu'au début du XXe siècle, c'est la grande ligne qui a tenu. Alors elle a été exprimée avec modération, elle a été, bien sûr, dans l'interprétation des événements, il y a une multitude d'analyses qui ont pu être faites sur la bête, le 666, à l'époque des croisades par exemple, on assimilait l'antichrist à l'islam, c'était très logique parce que c'était les ennemis de la chrétienté. Ensuite, ça évolue en fonction de celui qui paraît être l'ennemi de Dieu. Au 19e, c'est la grande période de la franc-maçonnerie qui est l'image du mal, etc. etc. Donc, mais au 20e, l'exégèse revient en fait à la théorie de la récapitulation et à une interprétation strictement historique qui se réfère à celle du premier siècle de notre ère, c'est-à-dire à l'époque de Néron. Alors on met tout, vous voyez, dans l'histoire du christianisme naissant, et on refuse de l'appliquer à l'histoire universelle à partir de ce moment-là, dans le monde de l'exégèse en tout cas.
Mais... Oui.
Non, mais moi, ce que cela me donne à penser, c'est que ce genre de livre nous donne des histoires atemporelles ou des histoires éternelles. Alors, c'est tout à fait un paradoxe, mais c'est comme si, dans l'optique chrétienne, l'histoire avait valeur, le récit pouvait être éternel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en effet...
Plusieurs fois vrai à plusieurs époques.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est une histoire vraie en tant que chacun peut inscrire sa petite histoire dans ce récit plus grand que nous. Et c'était Léon Blois qui disait, un prophète, c'est quelqu'un qui se souvient de l'avenir. C'est quelqu'un qui a la mémoire de l'avenir. Et je crois que ce miracle-là, de pouvoir prédire, prévoir ou reconnaître telle époque dans un texte qui a été écrit bien avant l'époque qu'on est en train de vivre, c'est que l'histoire peut être au-delà du temps, très paradoxalement.
Alors j'entends bien ce que vous dites tous les deux, c'est-à-dire que c'est d'abord un récit spirituel sur les destinées finales de l'humanité, c'est un récit eschatologique au sens de science des fins dernières, et que c'est également un récit circulaire, non pas dans la présentation eschatologique, mais en partie dans la présentation historique, puisque chaque époque a eu ses antéchrists, ses bêtes de la terre et de la mer, etc. Néanmoins, je suis un petit peu troublé parce que, comme nous l'avons dit au début, il y a une fin des temps. Ce qui veut dire qu'il va bien y avoir un moment où, si on prend les choses à l'envers, il va bien y avoir le jugement dernier, il va bien y avoir la fin du temps des 1000 ans, avant il va bien y avoir les 1000 ans, avant il va bien y avoir la bataille d'Armageddon, etc. Ou non ?
Personnellement, je pense que oui. Mais il y a un caractère universel dans l'Apocalypse, c'est-à-dire que c'est pas un récit tout entier consacré à la fin des temps. Il y a tout un développement d'abord préalable sur ce qui précède la fin des temps. C'est donc toute cette mise en place, ce que je disais au début, c'est-à-dire cette température spirituelle de l'humanité et de l'Église. Donc là, ça représente l'ensemble de l'histoire, cette première, cette introduction à la narration, mais qui est très ample. Là, c'est valable pour toutes les époques, car toutes les époques ont leur diable, ont leur dragon, ont leur bête de la mer et leur bête de la terre, comme vous le disiez très justement. Mais c'est un récit qui est linéaire. Et linéaire, ça veut dire qu'il y a bien une conclusion. Et personnellement, en tant que théologien hein, cette fois-ci, moi j'adhère à l'idée qu'effectivement, même si les cycles spirituels, et c'est normal, le combat spirituel est régi au long des siècles par les mêmes lois, mais il y a en même temps un progrès qui fait qu'il y aura à cette fin des temps eh bien, une révélation vraiment complète. Personne ne pourra plus ignorer, en fait, cette lutte entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. La plupart des gens, s'ils l'ignorent, c'est parce qu'ils sont dans le non-choix, c'est parce qu'ils sont, mais ils n'ont pas fait la quête pour approfondir. Donc, l'Apocalypse nous donne cette clé herméneutique, cette clé d'interprétation. Saint Jean nous dit, eh bien, c'est seulement la fin des temps, c'est le moment où vraiment l'ensemble de l'humanité sera capable, eh bien, de poser un choix.
C'est l'Apocalypse, la révélation.
Là, oui, mais elle est progressive. Mais il y a un moment, effectivement, final. Mais c'est Armageddon, en fait, ce moment final où l'humanité, dans son ensemble, est capable de prendre position par rapport à la question de Dieu.
Et donc, pour aller jusqu'au bout de cette interrogation, qui n'a pas que des développements complètement farfelus comme Nostradamus ou 2012, mais est-ce qu'il est légitime, d'un point de vue historique et théologique, avec toute la prudence nécessaire évidemment, mais de rechercher certains signes, non pas de la fin des temps, mais certains signes de l'approche de tel ou tel moment qui rapproche l'histoire des hommes de la fin des temps.
Mais c'est l'attitude même du croyant, c'est l'attitude que la révélation elle-même nous invite à avoir, c'est-à-dire que cette interrogation sur les signes des temps, comme disait le Concile Vatican II, c'est un mouvement légitime et nécessaire de l'intelligence humaine qui doit méditer sur le sens des choses. Mais alors après, dans la conclusion, il ne faut pas trop se hâter, donc il faut bien commencer d'abord par s'imprégner du texte, de ce que Jean veut nous dire, et puis seulement après se poser la question, ce que j'observe là autour de moi, dans mon histoire, est-ce que... Alors, soit ça participe en tant que propriété générale, disons, à une étape du combat spirituel, ou est-ce que ce serait carrément, pourquoi pas, l'étape définitive.
En fait, ce qu'il faut aussi, si j'ai bien compris... voir, c'est qu'il y a en tout état de cause deux fins du monde. Il y a la fin de notre temps en tant que personne physique, c'est-à-dire que, et donc l'Apocalypse est un livre dont je verrai la fin, à titre personnel, puisqu'il va bien y avoir pour moi la fin du monde. Et puis il y a la fin du monde de l'humanité qui en quelque sorte récapitule les histoires particulières dans cette universalité qui fait que Dieu a donné un commencement et une fin au monde. C'est bien ainsi qu'il faut le comprendre.
Oui, moi je suis d'accord avec vous, on peut le dire ainsi.
Même si on pourrait même explorer un autre sens de la fin du monde, et dont le dernier essai de Père Philippe Play parle, c'est la fin du monde au sens de la fin d'un monde qui serait véritablement monde, c'est-à-dire qu'il ne serait pas immonde. Nous vivons en un sens actuellement l'expérience d'une fin du monde, en sens que nous vivons dans un monde qui ne fait plus sens, dans un monde qui ne nous rassemble plus, dans un monde qui opte pour une paix par le bas, c'est-à-dire si chacun vit dans son délire sans trop gêner son voisin, eh bien ça peut tenir.
Ça n'a pas toujours été un petit peu le cas tout de même.
Peut-être, mais...
Nil novi sub solé.
Je trouve que les moyens techniques dont on dispose nous permettent d'obtenir un grand malentendu social sans pour autant de guerre civile. La technique, ça nous permet comme je le dis dans le livre, de chuter sans jamais tomber, de faire le mal sans faire du mal. C'est-à-dire que chacun le fait devant son écran, chacun le fait pour soi. On peut tuer beaucoup de gens, mais sur ordinateur. Le mal en est-il moindre dans l'impact qu'il y a sur son âme? Donc vous voyez, on a inventé quelque chose qui fait qu'on peut vivre en enfer, on peut durer en enfer, enfin en enfer, voilà, en tout cas dans un monde qui ne fait plus monde, dans un monde immonde.
Cette émission sur l'Apocalypse, je crois, intéresse un petit peu les auditeurs de Radio Courtoisie, et je vous propose de leur donner la parole. Je vais lire l'ensemble des messages prenez peut-être des notes pour répondre ou réagir à ce que vous souhaiterez. Un auditeur nous dit « Vous oubliez que le Christ combat les magiciens, les sorciers. Or, aujourd'hui, la sorcellerie est partout. Le crime de sorcellerie, voilà la rébellion. » Un auditeur « Comment, en tant que chrétien, peut-on avoir peur de l'Apocalypse, puisque ce sera la vérité enfin révélée ?» Une auditrice « Aujourd'hui, c'est l'argent qui domine le monde. Pourtant, Jésus a chassé les marchands du temple. L'Apocalypse est là pour les pauvres. » Si on prend en compte aussi les béatitudes et la résurrection de Lazare, tout cela laisse perplexe. Une auditrice, est-ce que le père Philippe Lé peut parler de la statue au pied d'argile qui est citée dans la Bible ? Un auditeur, plutôt que la fin du monde, il vaut mieux parler de la fin d'un monde, car il est écrit qu'il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres, de nouvelles mers, dont le Christ prendra possession. Une auditrice, Saint Augustin lui-même disait « Quand vous aurez trouvé la définition de Dieu, c'est que vous n'aurez rien compris. » Albert Jacquard, pour lui, l'éternité n'est pas un temps qui s'écoule, mais une absence de temps. Un auditeur, le bon Dieu qui a tout son temps, n'attendra toutefois pas 10 milliards d'années que le soleil implose pour réaliser la parousie. Un auditeur, tel exégète, explique que le mot « grand » dans le Nouveau Testament « Le Père est plus grand que moi, vous ferez des choses plus grandes, et le mot même de la résurrection. Donc, contrairement à la lecture cursive, le Nouveau Testament déploie par la résurrection la dimension la plus vaste de ce que l'Ancien Testament approche par la grandeur de Dieu. Et va plus loin, à mon humble sens, le Dieu Trine est lui-même la résurrection, auto-engendrement éternel, vie éternelle, profération éternelle par le Père. Un auditeur, nul ne se damne sans le savoir, vous trouvez ça rassurant ? Quelle présomption et illusion de le savoir, confère saint Paul, je fais le mal que je ne veux pas et fais pas le bien que je veux. Si on conserve la distinction occidentale entre intelligence et volonté, savoir la loi n'entraîne pas qu'on ait la force de l'appliquer. Ce n'est pas pour rien que saint Paul parle de la loi comme d'un ministère de mort. Et enfin, une auditrice, pour nous chrétiens, Dieu est un Dieu d'amour qui interdit de tuer son prochain. Que se passe-t-il pour celui qui vient de tuer au nom de son Dieu et qui même se sacrifie en tuant d'autres ? Donc voilà quelques messages d'auditeurs extrêmement variés, comme vous voyez. Je vous laisse toute liberté de répondre ou de réagir à ce que vous souhaitez.
Approfondissons d'abord la question du jugement entre connaissance et volonté. Eh bien, c'est non, Dieu ne laisse pas les personnes à mi-chemin. C'est-à-dire que la connaissance précède la décision, elle précède l'amour, mais c'est en même temps, on voit tout au long de l'Apocalypse, à travers les fléaux, qu'est-ce qui est mis en crise ? Ce que Dieu met en crise, ce sont, tout au long du texte de l'Apocalypse, avant le dénouement, donc avant le jugement, ce sont toutes ces valeurs idolâtriques, ces faux bonheurs, ces fausses vérités, ces fausses sécurités. Eh bien, Dieu les met en crise. Mais ceux qui ont de vraies sécurités, de vrais bonheurs, ne sont pas mis en crise. C'est exactement comme dans le fléau des ténèbres, dans les plaies d'Égypte. Eh bien, tandis que les Hébreux subissaient les fléaux, d'ailleurs pas seulement les ténèbres, mais les autres, eh bien, les Hébreux, eux, n'avaient rien. Parce que tout est d'ordre spirituel. Or, Dieu ne laisse pas les personnes à mi-chemin. Donc, c'est pas seulement un éclairage intellectuel, et le jugement, c'est pas seulement par rapport à une loi. Le jugement, c'est par rapport à une personne. Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu veux que j'entre dans ta vie ? Est-ce que tu veux que je devienne le sens de ta vie ? Et Dieu, c'est vraiment une question d'amour, mais aussi, évidemment, une question d'intelligence, d'éclairage sapientiel, mais pas seulement. Et dans les fléaux qui ont pour but bien de nous faire réfléchir, finalement, de faire réfléchir ceux qui n'ont pas encore approfondi la question, eh bien, il y a toute la richesse de cet amour d'un cœur qui parle et pas seulement d'un ordinateur qui décide des destinées de chacun.
Je propose aux auditeurs de Radio Courtoisie de reprendre donc ce récit de l'Apocalypse pour en approfondir certains points.
Oui, en tout cas, merci à vos auditeurs pour la richesse de leurs questions. Pour rebondir aussi sur saint Paul, finalement, à l'aide d'une philosophe qui s'appelle Simone Weil, celle qui est morte en 1943, qui dit que, alors que le désir de l'or n'a rien à voir avec de l'or, le désir du bien est déjà du bien. Tant et si bien que pour dire « je ne fais pas le bien que je veux », eh bien, on est quand même déjà dans le choix.
Oui, et donc dans le bien.
Et donc, en un sens, on est déjà dans le bien.
Donc,
et...
on est déjà sauvé, vous allez dire.
Ah oui, bien sûr. Oui, ouais, ouais. Quand on parle comme saint Paul, on est déjà sauvé.
Ah bah, bien sûr. Et puis, finalement, c'est l'aveu de son impuissance qui appelle cette force plus forte que nous, qui est l'Esprit Saint. Et sans cet aveu d'impuissance, que pourrions-nous de grand ? Et, en tout cas, on ne reçoit pas la grâce.
Si nous avons un peu réconforté un auditeur, nous n'avons pas tout à fait perdu notre matinée. Alors, si nous revenons donc sur la structure profonde du récit, vous avez évoqué, Père Philippe Play, que ça s'ouvre sur une parole d'abord à l'Église, puisqu'elle est dépositaire, évidemment.
Exactement.
En tout cas pour les chrétiens.
De la vérité.
De la vérité.
Selon la Bible, selon saint Jean en particulier. C'est le trésor qu'elle est chargée de garder et de transmettre.
Et là, il y a donc cette présentation des sept églises rassurant, le terme est mauvais, c'est-à-dire qu'on présente les différents états de l'Église et on a des églises plus ou moins saintes, plus ou moins dynamiques.
Tout à fait.
Et donc déjà, au moment où saint Jean écrit, donc à la fin de notre premier siècle de mémoire, il présente déjà ce que sera l'histoire de l'Église.
Tout à fait. C'est l'ensemble de l'histoire de l'Église qui est récapitulée et prophétisée aussi par saint Jean à travers ce septennaire.
Je ne résiste pas, évidemment, je suis un journaliste avec tous ses défauts, à vous demander, Père Philippe Play, aujourd'hui, de quelle Église nous dépendons ? Nous sommes dans lequel de ces sept Églises ?
Mais les sept coexistent. C'est à vous de déterminer dans laquelle vous êtes. Alors, donnons quelques éléments tout de même. Pour saint Jean, le symbolisme est le suivant. On a une église qui est au centre, c'est la première, Éphèse. Elle a la primauté. Et c'est comme ça qu'elle est définie. Et sa vocation, sa mission, saint Jean, le Christ la donne, la raconte, c'est de nommer, d'éprouver les apôtres. Donc vous voyez, on a une vision qui correspond très bien à la primauté de Pierre, en quelque sorte. C'est à l'image du pape qui nomme les évêques et qui vérifie aussi leur idonéité par rapport à la foi et à la transmission de la foi. Et elle est au centre. Et puis autour, comme sur la circonférence d'un cercle, deux à deux, diamétralement opposés, par couple, vous avez trois formes possibles de situation de l'Église. Vous avez l'Église parfaite. Elle est qualifiée dans sa pauvreté, elle est qualifiée à tous les domaines, c'est matériel, mais c'est aussi au niveau des structures, peut-être au même du nombre des fidèles, enfin vous voyez, la pauvreté. Mais dans cette pauvreté, elle est persécutée. Comme si, justement, les démons détectaient, nonobstant la petitesse de ces églises, une puissance, une force qu'il faut à tout prix abattre et éteindre. Ensuite, vous avez un stade qui est déjà plus mélangé. C'est l'église des théologiens. C'est Pergame, entre autres. Et donc, c'est une église qui déjà a introduit le compromis. Vous voyez, qui est fidèle, globalement, mais qui en même temps, le Christ a quelque chose à lui reprocher. Il reproche, par exemple, à l'église de Pergame de supporter les doctrines de Balaam, par exemple. Et puis, il reproche aussi à l'église d'accepter la doctrine de Jézabel. Donc, ça va dans les deux sens. Vous voyez, Balaam, ça veut dire, on commence par gauchir les vérités de foi, parce que Balaam, c'était un prophète, il faut remonter à l'Exode, un prophète de l'Ancien Testament qui, pour lutter contre Israël, avait dit il faut leur envoyer les filles de Moab, parce que pendant une campagne, d'abord, les soldats israéliens n'ont pas le droit de s'unir sexuellement avec des femmes, et puis encore moins avec des incroyantes. Donc, c'est des symboles de l'idolâtrie, en quelque sorte. Donc, il y a le commandement mauvais qui conduit à de mauvaises fins. Jézabel, c'est l'inverse, en fait. On gauchit d'abord le comportement des gens pour ensuite, eh bien...
Les mœurs, en quelque sorte.
Non, on prend de mauvaises habitudes. Et puis, on dit, voilà, la loi est inapplicable, il faut donc la changer et l'adapter à notre mode de vie moderne et contemporain. Pour résumer très vite, Balaam, c'est l'inverse. On commence par changer la théorie, quoi, pour arriver au changement de pratique. Alors donc, mais c'est une lutte, c'est-à-dire que ces églises luttent contre ça, elles ne sont pas inertes. Et puis le troisième état, c'est l'église, les parties de l'église qui sont vaincues. Et c'est des églises qui nous sont décrites comme étant mortes, et tout en ayant l'apparence de vie, dit le Christ. Tu as l'apparence, la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Et, ou alors, c'est l'image de la tiédeur. Tu es tiède et je vais te vomir. Donc on a les meilleurs, ceux qui sont en situation de compromis dans la foi, et puis ceux qui vraiment se sont fait abattre par la tentation.
Mais d'ores et déjà, quand on regarde la diversité de l'Église universelle dans le monde, on peut, sinon par pays, en tout cas par zone géographique au sein des pays, trouver quasiment toutes ces situations.
Ah bien sûr, mais on les trouve toutes justement. Moi je suis très prudent par rapport à un type d'interprétation qui voudrait dire essayons de situer telle ou telle église géographiquement.
Non, c'est pour ça que j'ai été plus prudent, hein. Oui. Vous avez vu, on peut peut-être avoir, il peut y avoir des... Mais il fallait pas...
C'est plutôt des lieux vocationnels ou existentiels, vous voyez, les églises des martyrs, les églises des théologiens, les églises des managers, on pourrait dire des organisateurs, c'est les trois types.
Et puis on pose toujours, à mon avis, mal la question quand on à propos de l'Église, quand on dit mais comment sont-ils ceux-là ? Et l'Église c'est d'abord nous, et c'est d'abord nous-mêmes. C'est peut-être même plus large qu'on ne le pense. Mais la question c'est un peu comme l'humanité. On a très mal posé la question quant à l'humanité quand nous voulions, quand nous nous demandions mais celui-là que j'ai en face de moi est-il humain ou pas parce qu'il est handicapé, trisomique, que sais-je ? L'humanité, on doit d'abord l'attendre et l'exiger de soi. Et par rapport à cette hiérarchie des églises, la question, c'est en effet celle du perplet. Et moi, où suis-je ? Et cette question, il faut d'abord se la poser, peut-être à soi-même.
Alors, si nous continuons de dérouler ce récit de l'Apocalypse, il y a ensuite les sept sceaux et les sept trompettes. Et notamment les sept trompettes, vous nous avez parlé, Père Philippe Plé, des sentences de Dieu sur le monde. Mais qu'est-ce que cela veut dire, ces sentences, si Dieu nous laisse cette liberté de l'accepter ou de le refuser ?
Ce sont des avertissements. Les trompettes, justement, ça se fait entendre de loin, c'est pour convoquer les gens, dans l'Antiquité c'était le cas. C'est Dieu se manifeste. Et si Dieu ne se manifestait pas par la révélation au sens universel du terme et son porte-voix qu'est l'Église, mais aussi individuellement par la grâce, et toutes sortes de médiations angéliques que Dieu peut imaginer, créer pour chacun d'entre nous, eh bien on ne pourrait pas choisir, on pourrait pas. Le sens de notre vie humaine, c'est le choix. Choisir entre Dieu et quoi ? Et soi-même, en fait. Et l'amour de soi ou l'amour de Dieu, c'est le sens de la vocation de la vie humaine. Et les trompettes, ce sont des avertissements, ce sont des proclamations, pourrait-on dire, et elles sont symbolisées par des fléaux. À chaque fois, il y a quelque chose qui, dans la création, est frappé. Et ça correspond en réalité, mais là on n'aura pas vraiment le temps de descendre dans les détails, mais il suffit de se reporter au livre par exemple. Et c'est des confiances, voyez, des certitudes, voire des idolâtries, des erreurs, des mensonges qui sont en nous et que Dieu va mettre en crise pour nous permettre d'accéder à la vérité. Et la vie est faite de ça, on voit bien, même individuellement, comment on passe de l'illusion, de la méconnaissance sur le monde, à une sagesse humaine déjà sur les uns et les autres. Mais spirituellement, c'est beaucoup plus fort.
Et dans l'histoire, avec un grand H des hommes, est-ce que vous pensez qu'il y a des temps dans l'histoire de l'humanité où Dieu intervient plus ou d'autres où il intervient moins, en fonction de son omniscience et de ses décrets divins, bien entendu, hein,
Plus intervenir, plus ou moins, c'est pas l'expression que j'utiliserais. Il intervient de manière différenciée, quoi, en fonction des temps. Et de même qu'un individu a besoin de tel coup de pouce dans sa vie spirituelle à tel moment donné de sa vie, c'est pareil pour l'humanité. Je crois à un développement de l'humanité, pas au sens de Hegel, pas au sens d'un développement où l'homme ne compterait pas, où la liberté humaine est complètement niée, où c'est rendu profane l'idée de l'Esprit Saint, Hegel, pour en faire une divinisation de l'homme. On est divinisé par force avec Hegel, et c'est le sens du progrès de l'homme, ça, pour lui. Non, Dieu respecte la liberté, mais c'est vrai qu'il intervient, mais plus ou moins, là j'avoue que ça ne se pose pas en ces termes-là, c'est pas du plus ou du moins, c'est adapté en fonction des signes des temps.
Et néanmoins, le septième sceau annonce explicitement la fin du temps de la prédication. Comment devons-nous le comprendre ?
Ça finira, ce temps de la prédication. Je dirais que c'est le temps de l'histoire. Et on arrive là aux portes, du thème de la fin du monde proprement dit avec ça. Et alors là, s'ouvre un large développement qui fait tout comprendre. C'est le dragon d'abord, sa venue sur la terre, et il se cache derrière deux bêtes. Et alors, c'est là que Saint Jean nous révèle en réalité la nature du combat spirituel. La nature du combat spirituel, on voit la bête de la mer, et elle est horrible, elle a 7 têtes et 10 cornes, vous imaginez, c'est quand même pas quelque chose de très élégant. Eh bien, elle séduit les habitants de la terre. Donc c'est pas évidemment d'ordre esthétique cette séduction, c'est une idéologie. C'est une idée de l'homme divin, de l'homme qui va pouvoir trouver son bonheur sur la terre. Et ça, c'est à toutes les époques. La bête a cette prédication. Mais là, à la fin des temps, elle va mobiliser, nous dit le texte, toutes les nations, donc là, l'ensemble du monde, autour de cette idée, de ce projet. On va construire un paradis sur la terre sans Dieu. On n'a pas besoin de lui. Il a voulu garder le bonheur pour lui, ce Dieu-là, ce Dieu égoïste, ce Dieu autoritaire. Eh bien, on le rejette. On va lui montrer qu'on n'a pas besoin de lui. Vous voyez comment le...
Mais on est le porte-voix de Satan qui accuse Dieu. Et donc, par l'intermédiaire des hommes... Satan, lui, joue sa partie, si on peut dire.
Exactement.
De façon très profane. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est de même qu'il y a eu dans le passé Babel, eh bien, il y aura dans le futur une sorte de réconciliation factice de l'humanité autour d'un projet collectif, mais qui a comme vocation première, alors cachée ou non cachée, ça c'est une vraie question, de s'opposer au message et au projet divin.
Exactement. Et elle porte un nom dans l'Apocalypse, elle s'appelle Babylone. Et c'est la cité du dragon, Babylone. C'est la cité du bonheur tout terrestre, du bonheur de l'homme qui veut avoir la vie en lui-même, qui cherche la divinisation, mais à se l'approprier, pas à la recevoir, comme dans la foi, humblement donc, forcément, et en état de besoin. Non, là, il cherche à se l'approprier comme Prométhée, quoi.
Mais vous pensez que ceux qui vont, enfin les clercs au sens général du terme, ça peut être aussi bien des hommes d'église que des hommes politiques, etc. Ceux qui vont vouloir proposer cette déviation, ils vont cacher le but final, ou au contraire, est-ce qu'ils vont dire, j'allais dire, quels sont leurs maîtres ?
Les hommes sont manipulés par les esprits. C'est une guerre en esprit, une guerre des esprits, dirons-nous. Et nous, on en comprend une petite partie seulement. Il faut vraiment être dans la foi.
Ce que je veux dire,
c'est
que tout le monde ne comprendra pas la même chose au même moment.
Au long de l'histoire, tout le monde ne le comprend pas. Mais petit à petit, là, à la fin des temps, maintenant, c'est la fin des temps proprement dite, eh bien, les hommes le comprennent dans la mesure où ils participent, ils entrent en communion avec ce projet. Ce projet, il est explicite quant à lui. Ça veut dire, on coupe la transcendance, on chasse tout ce qui rappelle la transcendance pour se plonger dans la matière, les valeurs de les nourritures terrestres,
disait
André Gide, l'immanence. Quand on sait ça, on communie là d'une manière explicite à ce culte-là. Ce qui manquera sans doute encore, c'est de savoir que c'est un dragon monstrueux et horrible d'égoïsme qui en est le porte-parole.
Et oui, Martin Stéphens.
Non, non, mais là où je rejoins le propos de Père Philippe Play, c'est qu'il y a comme il y a aujourd'hui une accentuation du combat. Les choses.
Vous le ressentez comme ça ?
Oui, je trouve que les atteintes même au bon sens élémentaire sont explicites. En venant à Paris il y a quelques semaines, je voyais cette affiche dans le métro pour un site de rencontre extra-conjugale. Déjà l'idée est étrange, et cette affiche disait une femme qui trompe son mari est une femme deux fois plus fidèle. Et bon,
la vérité c'est le bien, et la vérité c'est le mensonge, et le mensonge, voilà. C'est 1984 en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça.
Le bien c'est le mal, etc.
Isaïe, le prophète Isaïe disait que il viendra un temps où on inversera tout. Et c'est vrai que je trouve que c'est fait avec tellement de bonne conscience, c'est même institué, financé pour des émissions débiles. C'est la médiocrité est tellement sûre d'elle-même que on se dit, soit je vais être de ce monde, soit je n'en suis pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que je trouve que partout, le débat devient plus critique, plus explicite. Et du coup, tout à l'heure, je mentionnais un film qui s'appelle Tech Shelter de Jeff Nichols, d'un homme qui a un pressentiment de la fin du monde et qui se demande quoi faire. Et donc lui, il construit... sous l'œil médusé de sa femme, il construit un abri anti-tornade, voire anti-atomique, dans son jardin. Et la question pour cet homme, c'est qu'il y a une petite fille qui est sourde, c'est la suivante, parce que c'est un film sur la paternité mise en perspective, révélée par la perspective de la fin du monde. La question de cet homme, c'est qu'est-ce que je fais avec ma petite fille ? Est-ce que j'essaye à tout prix de l'inclure, de l'insérer dans ce monde pourtant qui ne tient plus, qui se brise de toutes parts parce qu'il a voulu se fonder sur lui-même, ou est-ce que, eh bien, je prends abri, mais de quelle façon, etc.
Alors, Père Philippe Play, cette Babylone que l'on peut croire déjà existante, ayant déjà existé ou devant exister dans le futur, peu importe, on va laisser à chacun sa perception justement de cette révélation. Cette chute de Babylone, elle va arriver.
C'est
inscrit dans l'Apocalypse. Et comment va-t-elle se matérialiser, cette chute ?
C'est ça qui est extraordinaire que nous livre Saint Jean. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va dire, c'est même pas au long de l'histoire, les empires ont essayé d'unifier le genre humain autour des mêmes pensées, des mêmes cultures, des mêmes cultes. Mais à chaque fois, c'est retombé, exactement comme le chantier de Babel de Genèse chapitre 11. C'est-à-dire que les hommes construisent et puis hop, ils abandonnent. Eh bien, Saint Jean nous dit que ça va encore se passer de la même manière. À la fin des temps, on aura l'ultime Babylone, celle qui est sur le point vraiment de prendre, d'embraser le monde entier.
Qui
réussira.
Qui réussira même.
Elle va réussir. Elle va vraiment séduire toutes les nations. C'est une culture homogène. Vous voyez, c'est pas un empire. Babylone, c'est une ville, mais c'est un symbole, la ville. C'est plus qu'une ville, plus qu'un empire, ça dépasse tout ça.
Une sociologie, au sens profond.
Une sociologie, une culture, vous voyez, qui met tous les hommes dans le même esprit. Et la fabrication du bonheur, vivre le bonheur sur la terre, ne plus penser à Dieu du tout et se vivre comme des dieux en quelque sorte. Or, ce que Saint Jean nous dit, eh bien, c'est que le croyant, vous voyez, Dieu n'envoie pas les croyants à l'assaut de Babylone. Son armée.
Pourtant, il y a la bataille d'Armageddon qui est mentionnée.
Ce n'est pas l'assaut de Babylone. C'est très différent. Babylone, elle porte en elle-même, nous dit Saint Jean, les germes de son autodestruction. Parce que Babylone, c'est un projet divin. Or, Dieu seul peut faire tenir dans le temps quelque chose qui est de cet ordre-là.
Donc, on singe le projet divin en retranchant Dieu de ce projet. Et donc, par nature, Dieu ne fait que prendre acte que c'est
le
un échec.
Le projet est fatalement voué à l'échec. Et là, dans le récit de l'Apocalypse, ça se fait comment ? Eh bien, c'est la même bête, vous voyez, qui soutient Babylone, donc c'est le dragon. Il est divisé en deux, en quelque sorte. Il y a ces sept cornes qui sont sept rois d'un côté qui soutiennent Babylone. Et puis, il y a les têtes qui, elles, eh bien, sont... Il y a les têtes, pardon, qui soutiennent Babylone, et il y a les cornes, 10 cornes, eh bien, qui vont se séparer, vous voyez, il va y avoir une mésentente, et ce sont elles qui vont faire tomber Babylone avec les rois de la terre, qui vont l'assiéger. Ça veut dire qu'il y a ils se disputent, quoi.
Une mésentente.
Une mésentente à l'intérieur
diviseur.
Même.
Le diviseur lui-même divisé sur lui-même.
Tant qu'il a un ennemi commun, le diviseur, Dieu, eh bien, il arrive à unifier les hommes, à les mettre sous la même bannière. Mais une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, eh bien, en fait, tout se divise à nouveau.
Et alors, cette bataille d'Armageddon qui a tellement inspiré nos cinéastes.
Alors, Armageddon, pour le dire rapidement, mais sans trahir la beauté de ce texte, c'est on voit... Deux armées. Il y a l'armée de l'agneau, sous la forme du cavalier blanc avec un grand glaive. Et puis vous avez l'armée, alors là on a les deux bêtes qui ont coalisé les nations entières et qui suivent. Alors vous imaginez, deux armées, une armée blanche d'un côté et une armée sulfureuse, noire, diabolique de l'autre. Et puis en fait, eh bien, il n'y a qu'un seul protagoniste, il n'y a qu'un seul soldat qui va combattre et qui va exterminer l'armée des rebelles, c'est le cavalier blanc lui-même, c'est le Christ. Et le glaive symbolise en fait quoi dans l'Apocalypse ? La parole de Dieu.
Donc ce n'est pas une bataille incarnée.
Ce n'est pas une bataille incarnée, c'est une prédication. Ça veut dire que la vérité ne pourra plus être cachée, la vérité ne pourra plus être déformée, défigurée par le dragon, par ses mensonges. Elle paraîtra au grand jour. C'est la victoire de la vérité.
Père Philippe Plessis, cette bataille d'Armageddon est une bataille spirituelle. Le règne des 1000 ans, lui, n'est-il pas une réalité tangible que ceux qui vivront cette époque pourront témoigner ?
Elle sera tangible. Dans quel sens ? Eh bien, elle suit Armageddon. C'est-à-dire que les 1000 ans, 1000 dans la Bible, c'est un chiffre qui symbolise la bénédiction. Donc ça veut dire une période,
c'est
pas la durée, c'est une période de bénédiction. Et en quoi est-ce qu'elle concerne, en consiste ? Eh bien, les nations demeurent libres, on le voit bien, puisqu'à la fin des temps, elles choisissent leur camp. Mais il n'y a plus de culture du mensonge. Elle a disparu à Armageddon, cette culture du mensonge, cette culture de mort. Et il y a cette proposition de la sagesse de l'Église, eh bien, qui redonne quoi ? Eh bien, la finalité des choses, la vérité comme norme et non pas les vérités plurielles qui s'annulent et qui se dissolvent. Vous voyez, l'humanité, elle retrouve un cœur, l'amour, comme seul bonheur possible, comme seule source du bonheur. Ça veut dire un monde qui n'est plus pollué par l'orgueil, qui n'est plus pollué par ces projets prométhéens que symbolisait Babylone.
Et est-ce qu'on peut imaginer, évidemment avec nos limites et chacun avec ses présupposés, mais quelle forme d'organisation sociale cela pourrait représenter ou ça nous est encore inaccessible ? Parce que vous êtes de ceux qui pensaient que ce temps des bilans, il est devant nous, il n'est pas derrière.
Il est devant nous, à mon avis. On est en pleine construction de Babylone, je pense.
Oui, on n'est plus. C'est ce que Martin Stephens nous disait tout à l'heure. Il croit qu'on est très avancé dans cette construction babylonienne. Je serais pour ma part beaucoup plus prudent, mais en tout cas, ça doit arriver. Et alors, à la fin de ce règne des 1000 ans, il arrive la fin du temps des 1000 ans. Et là, l'Apocalypse nous dit que le dragon est relâché et que va-t-il se passer alors ?
Curieusement, vous voyez, si ça avait été, si la Jérusalem céleste avait régné à la manière de Babylone, il n'y aurait pas eu de révolte. Donc ça montre que les gens sont libres. Il reparaît, et dès qu'il reparaît, il se met à prêcher à nouveau la même chose.
Et à séduire.
Et à séduire à nouveau les nations. Elles étaient libres, ces nations, elles ont vécu dans la paix, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de persécution comme il y en a tout au long de Babylone, c'est le lieu de la persécution des chrétiens, c'est comme ça que Saint Jean la situe, donc les 1000 ans c'était pas du tout ça.
Donc dans les 1000 ans il n'y a pas de persécution des chrétiens.
Voilà, c'est un monde de paix.
L'évangile est prêché à toutes les nations, on pourrait
proposer,
dire ça comme...
Oui, mais pas imposé. Et puis la preuve, c'est que lorsque le dragon revient avec sa prédication, son aspiration au bonheur terrestre, eh bien, il séduit ces nations et il y a une seconde bataille, celle que j'ai appelée du camp des saints, c'est-à-dire ils assiègent l'Église, spirituellement parlant, bien sûr. C'est à nouveau, c'est une guerre spirituelle qui commence et culturelle aussi.
Et quelle est donc l'issue ?
Et l'issue, ben, elle est rapide cette fois-ci. Alors, et on assiste là au récit proprement dit de la fin des temps, et donc c'est important là. C'est pas du tout, vous voyez, dans des fléaux que se passe la fin des temps, nous dit saint Jean, mais d'un seul coup, eh bien, tout ce qui existait là autour de nous, le ciel, la terre, les immeubles, les maisons, les gens, enfin pas les gens, mais les choses, eh bien, ça disparaît, ça devient évanescent, et tout le monde se retrouve devant le trône de Dieu, en présence des anges, en présence des saints. Et voilà comment se passe la fin des temps et l'introduction du jugement final. Ça veut nous dire, qu'est-ce que Jean veut nous dire ? Eh bien, il veut nous dire que d'un seul coup, là, on entre dans la contemplation même, qui est celle de saint Jean, lorsqu'il est accompagné par l'ange et que le ciel s'ouvre. C'est-à-dire que d'un seul coup, là, on comprend toutes les finalités, on comprend qu'en fait, toute cette création qui nous semblait bouchée à cause de notre esprit immanentiste, on va dire, eh bien, on était dans la paume de Dieu continuellement. Toute la création était dans la paume de Dieu et chacun d'entre nous. Et on l'ignorait, nous, on s'arrêtait à l'horizon matériel qui nous paraissait indépassable. Par la foi, on peut déjà anticiper ce dépassement dès aujourd'hui, c'est ce que nous dit saint Jean, comme lui-même l'a fait par la vision.
Martin Stéphane, ce que vous inspire ces notions de combat spirituel et de fin des temps également?
Déjà, je trouve ça très très intéressant que ce combat, finalement, ce n'est pas nous qui le menons. On prête peut-être un peu trop à la volonté, même pour revenir sur notre saint Paul, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Dans la première occurrence, c'est poyo, du verbe poyen, qui veut dire faire œuvre de bien. Et alors que deuxièmement, c'est pratein, prato, je fais le mal que je ne veux pas. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que celui qui crée véritablement, ça n'est pas nous. Celui qui agit véritablement, ça n'est pas nous, ce n'est pas nous. De telle sorte que, et c'est ça peut-être la foi, c'est un laisser passer, un laisser être, laisser être cette puissance qui est plus puissante que notre faible volonté. Après, c'est vrai que ça se finit tout d'un coup, on pourrait dire, l'horizon se révèle et on voit que notre fenêtre à nous était plutôt une meurtrière, c'était le regard qui tue sur les choses, un horizon bouché, on prenait autrui pour cible et tout à coup le mur s'en va et en effet la largesse et la largeur du don de la vie nous est révélée.
C'est aussi un rendez-vous ? Puisque au soir de notre vie, il y a le jugement.
Oui.
Alors, je pense qu'il faut peut-être expliquer à nos auditeurs la différence, à mon avis, assez oubliée aujourd'hui, y compris, je crois, chez les croyants, entre le jugement particulier et jugement général. Parce que finalement, nous avons commencé, vous me l'avez un petit peu reproché au début de l'émission par la fin, mais là, nous arrivons à la fin de l'émission, et il est bien normal que nous arrivions à la fin, mais nous sommes arrivés à la fin des fins. Nous sommes arrivés à la fin des temps, et la fin des temps, c'est le jugement dernier, en quelque sorte le jugement général. Et si j'ai bien compris ce que l'Apocalypse et les textes de l'Évangile veulent nous dire, c'est qu'il y a là une sorte de dévoilement à l'ensemble de l'humanité, de l'ensemble des desseins divins, puisqu'il y a cette promesse qui, elle, renvoie au jugement particulier, qui est cette promesse de voir Dieu. Donc, ça veut simplement dire, enfin, je crois, chacun l'exprime à sa façon, cette promesse d'une perpétuelle relation avec un être qui dépassera infiniment et jusqu'à la fin des temps, qui eux-mêmes seront abolis, ce que l'on pouvait imaginer et qui explique cette notion d'éternité.
Mmh. Moi, je l'expliquerai la distinction rapidement entre jugement particulier et universel. Le jugement particulier, c'est pas un dogme, c'est le jugement dernier qui est le dogme de l'Église catholique d'abord. Mais il y aurait, évidemment, quand on meurt, eh bien, il y a une première parution devant Dieu. Donc, ce jugement-là, c'est le jugement individuel. C'est mon choix par rapport au Seigneur. Ben, finalement, est-ce que je te veux comme souverain, comme époux, comme frère, comme Dieu, quoi. Ou est-ce que, moi je veux trouver mon bonheur en moi-même, et je veux vivre en moi-même. Et en fait, ça, c'est la définition de l'enfer pour nous autres chrétiens. C'est vivre par soi-même, pour soi-même.
Et c'est là, pour reprendre la citation du début de l'émission, où il y a l'accusateur de nos frères, c'est-à-dire en fait que le démon, lui, poursuit son propre projet, et qui n'est pas de sauver l'humanité, mais qui est de démontrer à Dieu que Dieu a fait une erreur.
Voilà, et donc de peupler son royaume et de dépeupler celui du Seigneur, puisqu'il ne peut rien contre Dieu. Et puis le jugement dernier, avec la résurrection des corps à ce moment-là, il est universel celui-là, c'est-à-dire que ce n'est plus le jugement particulier sur chacun, ça s'est déjà fait. Mais on voit là toute la conséquence de nos actes. Toutes nos positions dans la vie, bonnes ou mauvaises, moi je vais influencer un jeune, je vais le décourager par rapport à la foi. Lui-même va décourager d'autres, ou peut-être va-t-il, se suicider, par exemple, je prends des choses extrêmes. Dans l'autre sens, je vais le bien qui va se diffuser dans le monde entier. Imaginez pour des gens célèbres, des gens comme Hitler par exemple, toutes les conséquences du mal un philosophe trompeur, pour moi Hegel c'est un philosophe trompeur par exemple, tous ceux qui ont pu être influencés par Hegel et qui à cause de ça ont perdu le sens de la vérité, Hegel verra tout le nombre de victimes qu'il a pu commettre dans l'histoire. Et une chose qui lui a échappé, simplement parce que lui, dans son égoïsme, il avait pensé autre chose.
Père Philippe Plé, un grand merci pour cette émission. Je rappelle votre livre, Les grandes énigmes de l'Apocalypse, La clé des symboles, et plus récemment, Babel et les cultes du bonheur, aux éditions Salvator. Martin Stéphens, merci également. Vivre ensemble, la fin du monde, c'est maintenant. Et c'est également aux éditions Salvator. Merci à tous et je laisse nos auditeurs dans la contemplation de ces mystères qui nous dépassent. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Hugues Sérapion. Cette émission a été diffusée en direct samedi 29 septembre 2012, de midi à 13h30, et sera rediffusée l'après-midi de 16h à 17h30, et dimanche 30 septembre dans la nuit, de minuit à 1h30. Elle a été réalisée par Jean-Édouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation ou pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.